Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Roussillon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 9e numéro de l'année 2016 du Carnet de Région, l'émission collaborative des radios associatives et non commerciales de Languedoc-Roussillon, co-réalisée cette semaine par Radio Bartas et Radio Escapade.
Au sommaire de Carnet de Région cette semaine, un sujet de RCF Hérault sur les pollutions minières à Saint-Félix-de-Palière dans le Gard. Un reportage de Radio Grille Ouverte sur le rassemblement anti-gaz de schiste qui s'est tenu à Barjac le dimanche 28 février. Radio Escapade nous amène à la rencontre de citoyens et citoyennes qui se mobilisent pour soutenir les exilés. Enfin, Radio Alliance Plus nous présente le salon Sésame, le salon du bio et du bien-être, qui se déroulera à Nîmes du 4 au 7 mars. Bonne écoute.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
De l'arsenic, du cadmium, du plomb, des métaux lourds présents à des taux élevés chez 46 habitants des Cévennes dans le Gard. Des personnes touchées par la pollution, 20 d'entre elles vont porter plainte contre X. À Saint-Félix-de-Palière, au-delà du paysage verdoyant, il y a le lourd passé minier. Fermé en 1971, le site exploitait du plomb et du zinc. Résultat, sol et cours d'eau contaminés. Un reportage de Lauriane Havard de RCF Hérault sur l'ancien site minier Bob Enroe et à Saint-Félix-de-Palière.
Et là, on entre complètement sur le site d'exploitation à proprement parler.
Autour de nous, une forêt de pins méditerranéens.
Voilà, alors là, si vous voulez, on est face à la digue Humicor.
À nos pieds, un sol rocailleux, couleur rouille. Patrick connaît ce site par cœur. La pollution, il ne s'en doutait pas et elle a sacrément changé son quotidien.
Il faut qu'on fasse un balayage humide, l'aspirateur est interdit, etc., etc. Donc on a quand même des contraintes. Ça modifie complètement notre quotidien si on en tient compte. On vit avec.
Lui vit avec directement. Willem habite sur le site. Son but, à l'origine, développer une exploitation agricole. Un rêve miné.
Bah, malheureusement, on est obligé de faire des croix sur les champignons. Là, en fait, il y a des mesures à prendre maintenant pour pouvoir faire en sorte que ce qui est peut-être contaminant soit complètement confiné.
À quelques kilomètres de là, il y a la maison de Nathalie, en pleine rénovation depuis 3 ans, mais à présent, beaucoup d'hésitation.
Je me dis, on va vivre là dans 6 mois, on y est là, on a presque fini les travaux. Et on a l'impression d'avoir été trompés, floués. Et quelles conséquences ça va avoir pour notre santé à tous ?
103 de plomb, 55 d'arsenic, 1,8 de cadmium. Marianne fait partie des 46 personnes avec des taux élevés de métaux lourds. Aujourd'hui, elle a la sensation de vivre dans un paradis empoisonné.
J'ai l'impression que l'air est mauvais, que l'eau, effectivement, est plus bonne, la nature n'est plus bonne, le soleil n'est plus bon, c'est très éprouvant.
L'ARS a relancé les dépistages avant peut-être de mener une étude épidémiologique réclamée par de nombreux habitants.
Les séances de dépistage s'organisent tous les mardis et jeudis après-midi dans la commune de Générargues, à 10 km du site de l'ancienne mine de Saint-Félix-de-Palière. Ce sont entre 7 000 et 15 000 personnes, dont de nombreux élus locaux et des ONG comme ATAC et la Confédération Paysanne, qui ont défilé dimanche dernier à Barjac, dans le Gard, à l'initiative des collectifs contre les gaz de schiste. Cette manifestation réussie des opposants à la recherche et à l'exploitation d'hydrocarbures non conventionnels fait suite à une décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rendue fin janvier. Cette décision autorise Total, qui avait déposé un recours contre l'annulation de ses permis de recherche, à reprendre ses recherches sur plusieurs milliers de kilomètres carrés dans la Drôme, l'Ardèche, le Gard, le Vaucluse et l'Hérault. Ce que demandent les manifestants, c'est l'interdiction totale de l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste. Et ils en ont assez des promesses et des demi-mesures gouvernementales, comme le rappelait fortement l'un des porte-paroles des collectifs, Paul Reynard.
Il n'y a que des promesses depuis 2011. Le gouvernement, donc depuis 2012 et même pendant la campagne électorale, nous a fait des promesses en disant « vous inquiétez pas, on votera une loi ». Tous les nombreux ministres de l'écologie qui sont succédés dans ce gouvernement nous ont tous dit à chaque fois qu'ils sont arrivés au gouvernement « vous inquiétez pas, je vais prendre ça en main, on va vous rédiger une loi qui va régler le problème définitivement ». Et depuis 4 ans que ce gouvernement est là, on n'a que des promesses, on a des promesses tous les jours. Encore aujourd'hui des promesses de Ségolène Royal, mais voilà, on en a marre, quoi. On veut plus de promesses, on veut des actes.
Mais maintenant, édicter une loi par ce gouvernement, la fenêtre de tir est quand même mince, puisque vous demandez pour d'édicter une loi au moment du collectif budgétaire de juin. Il ne reste pas beaucoup de temps.
Je crois que c'est la dernière fenêtre de tir pour le gouvernement, c'est d'inscrire une loi dans ce collectif budgétaire, qui est, vous savez, une espèce de fourre-tout dans lequel on met tout ce qu'on n'a pas pu mettre pendant l'année. Aujourd'hui, si un petit groupe de députés voulait présenter une loi, il faudrait qu'elle s'inscrive dans une niche budgétaire. Des niches budgétaires, elles se sont fortement réduites avec les débats qui se sont prolongés sur l'état d'urgence et ceux qui vont sûrement aussi être assez longs sur la loi El Khomri. Donc la seule solution serait d'inscrire une loi dans ce collectif budgétaire et d'inscrire une loi qui soit largement soutenue par le gouvernement, appuyée par le gouvernement pour qu'elle ait une chance de passer.
Vous y croyez pas trop ?
On y croit. Nous, on fait tout pour y croire et on fait tout pour les inciter à le faire. Mais c'est vrai que plus on attend, plus la fenêtre de tir est courte.
Paul Reynard, vous avez insisté sur la lutte non violente que représente cette lutte anti-gaz de schiste. Que se passe-t-il s'il fallait passer à la vitesse supérieure ?
S'il fallait passer à la vitesse supérieure, on a une organisation tout à fait en place avec des pyramides d'alerte, avec des gens qui sont rodés. On a fait des entraînements de lutte, de manifestation non violente, mais de blocage non violent. C'est vrai que quand on écoute les informations aujourd'hui, on se dit que qui c'est qu'on écoute ? On écoute les paysans qui cassent, on écoute des Corses, on écoute en fait aujourd'hui le gouvernement écoute que ceux qui sont violents. Donc nous, ça fait 5 ans qu'on se démène pour contenir nos militants, pour vraiment garder la non-violence comme mode de fonctionnement. Mais c'est vrai que si on regarde, on se dit que peut-être qu'on a tort.
Parmi le petit groupe de députés que Paul Reynard appelle de ses voeux, il peut compter sur le soutien constant de la députée PS de l'Ardèche, Sabine Buis, laquelle propose une loi qui va plus loin que la loi imparfaite de 2011, dite loi Jacob, qui interdit la technique de la fracturation hydraulique, mais sans interdire la recherche d'hydrocarbures.
Eh bien écoutez, la loi Jacob, on se rend bien compte aujourd'hui qu'il y a quelques petits malins qui essaient de passer entre les mailles du filet. Donc il nous faut aller plus loin, les citoyens le demandent. Ma proposition de loi porte à la fois sur le gaz de schiste, mais également la participation du public et le dialogue environnemental, parce qu'on le sait tous, ce qui a foiré depuis le début, permettez-moi l'expression, c'est tout simplement qu'on n'a jamais voulu entendre ni les élus, ni les citoyens des territoires concernés. Est-ce qu'on peut dire que notre avenir est vers les énergies fossiles ? Est-ce qu'on peut penser un seul instant que l'accord qui a été conclu au mois de décembre dernier à Paris concernant le climat nous permet encore d'imaginer qu'on peut construire l'avenir avec des énergies fossiles en émettant toujours plus de gaz à effet de serre, alors que la loi sur la transition énergétique nous fixe elle-même une baisse en termes d'objectifs de gaz à effet de serre? On est là dans l'irrationnel, on est là dans le surréaliste, on est là dans la contradiction pure et simple. Les gaz et huiles de schiste, comme les énergies fossiles, sont du passé. Notre avenir est ailleurs, notre avenir c'est demain. D'ailleurs, demain, c'est le très beau film qui a été récompensé, exactement.
Mais c'est ça. Sabine Buis, demain, c'est aussi 2017. Vous avez un collectif budgétaire en juin 2016. Vous pouvez penser faire passer votre loi, votre proposition de loi dans ce collectif budgétaire, parce qu'après, il sera trop tard.
Il y a déjà des mesures qui sont passées dans le collectif budgétaire, notamment lorsque nous avons fixé un prix de la tonne carbone. Nous sommes en train de donner des signaux clairs aux entreprises en leur disant qu'à partir du moment où ils voudront continuer à développer des activités qui sont néfastes à l'environnement, alors oui, il faudra qu'ils assument, il faudra qu'ils paient. Donc des premières mesures sont passées et nous allons continuer à nous battre. Nous sommes un certain nombre de parlementaires à l'Assemblée nationale sur lesquels nous savons que nous devons donner des vrais signaux à la fois auprès des entreprises pour qu'elles prennent la bonne direction et aussi, à juste titre, récompenser tous ces gens qui aujourd'hui sont sur le terrain parce qu'ils ne veulent plus faire l'avenir avec les méthodes du passé.
Interdire aujourd'hui l'exploitation et la recherche de gaz de schiste par une loi, une autre loi demain peut la défaire.
Oui, c'est vrai. Demain, une autre loi pour la défaire. C'est pour ça que je dis, en tout cas en ce qui me concerne, en tant que parlementaire, moi je veux avoir bonne conscience. J'ai pris des engagements lorsque j'étais en campagne. Ces engagements, je les ai toujours tenus. Je souhaite rappeler que le ministère, notamment, et le gouvernement, là-dessus est clair. Il n'a jamais autorisé de permis gaz de schiste. Mais dans la mesure où je vois qu'il y a des failles, où il faut aller plus loin, eh bien, je continuerai à me battre, à aller toujours plus loin et à interdire toute méthode d'extraction.
Cette interdiction de toute méthode d'extraction que propose la députée Sabine Buis est pourtant loin de faire l'unanimité au sein du groupe socialiste du Parlement. Nul doute que les opposants au gaz de schiste auront donc encore l'occasion de battre le pavé lors de futurs rassemblements à Barjac ou ailleurs. C'était un reportage de Yves Defago de Radio Grille Ouverte.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Radio Escapade vous propose cette semaine d'aller à la rencontre de citoyennes et citoyens sévenols engagés dans la solidarité avec les exilés des jungles du nord de la France.
Alors qu'à Calais, l'État s'entête à opposer la force au drame humain, à l'image de la destruction de la jungle en cours, un peu partout en France et en Europe, des citoyens se mobilisent pour soutenir les exilés. C'est le cas dans les Cévennes. Dans le canton héraulté de Ganges, Nadira, Marie-Laure et Christelle agissent avec d'autres femmes. En décembre, elles ont organisé une collecte de matériel à expédier à Calais. Leur initiative a reçu un élan inattendu de générosité. Nadira témoigne.
On a été assez surprise. Hein. On ne s'attendait pas à cet élan de générosité. On ne s'attendait pas du tout à ce que d'autres associations portent avec nous ce projet, s'impliquent avec nous. C'était un sac, c'était deux sacs, c'était trois sacs, c'était des voitures, ça a carrément été des petits camions. Ça a été vraiment... les gens ont entendu, ont relayé.
Un premier camion est parti en janvier. Marie-Laure et d'autres membres du collectif ont fait la route en voiture pour s'assurer de l'arrivée du matériel réceptionné par l'auberge des migrants. Sur place, elles ont participé aux actions de l'association.
Donc on arrive et tout de suite on nous a mis un gilet jaune, on s'est retrouvé à trier les vêtements, mais on n'échange pas vraiment en fait. On est dans l'action, il y a une réalité qui dépasse tout le monde. On n'est pas là pour se demander pourquoi, comment, quand on agit et c'est très pragmatique, très concret. On se retrouve dans l'instant et on pose un petit peu son cerveau pour juste être efficace et donner du cœur et de la chaleur.
Après ce premier voyage, 30 mètres cubes de matériel restent encore à acheminer. Le collectif décide alors d'engager une collecte d'argent pour payer un deuxième camion. La générosité est une nouvelle fois au rendez-vous et le surplus de la collecte sera reversé à Gynécologie Sans Frontières. Christelle explique la démarche.
Et la cerise sur le gâteau, ce serait effectivement, avec les dons supplémentaires de surplus, pouvoir donner cet argent à Gynécologie Sans Frontières, qui est une ONG et qui n'a aucune subvention de l'État. Son axe principal, c'est les femmes et les enfants. Ce sont des personnes qui travaillent en binôme sur 15 jours sur tous les camps du Nord-Pas-de-Calais. Premier pas pour cette association, c'est l'approche. Donc de permettre un lien et de rencontrer vraiment les femmes et de tisser un lien pour leur permettre de les emmener dans certains hôpitaux, dans les cliniques pour qu'elles puissent se faire soigner. Donc ça peut être des soins de base gynécologiques, mais c'est aussi apporter du soutien aux personnes, aux femmes qui ont été violées, aux femmes qui sont atteintes de MST, etc., par manque d'hygiène, d'être en soutien auprès de leurs enfants.
Départ prévu ce samedi 5 mars pour le deuxième camion et la deuxième équipe de bénévoles du collectif. Marion et Clément, habitants de Saint-Hippolyte-du-Fort dans le Gard, ont eux agi sur une autre jungle, celle de Grand-Sainte, à côté de Dunkerque.
J'y suis allée en premier temps un mois où Clément m'a rejoint et tous les deux on a participé, on a travaillé en tant que bénévole. On va aider, filer un coup de main là-bas, voir ce qui se passe, essayer de comprendre cette situation. Clément a fait des cabanes, il peut peut-être en parler. Ouais. Et moi, j'ai été plus médiatrice dans les camps, où j'ai discuté avec les gens, essayé de les comprendre avec des femmes aussi, notamment une femme qui a fait une fausse couche, enfin plein de leur donner à manger. Quand je suis revenue, là, on m'a proposé de faire un travail artistique là-dessus et j'y suis retournée la semaine dernière. D'accord. Pour faire de la vidéo qui va compléter une installation en plastique au château d'Assas, au Vigan.
Moi, j'ai commencé au début avec Marion à faire plus de la distribution de nourriture. Je me sentais plus à l'aise à faire des cabanes, à vrai dire, parce que c'est pas forcément facile de trouver sa place. En tout cas, t'arrives pas le premier jour et puis direct, enfin voilà, il y a un rapport social qui met quand même un peu de temps à se créer. Je me suis plus trouvé à ma place en faisant des constructions de cabanes, donc c'est assez simple. Hein. Il y a un atelier bois qui est en place à l'auberge des migrants. Et donc il y a des cabanes qui sont déjà préparées en fait en atelier.
D'accord.
Pour gagner un maximum de temps en fait sur place.
Qui sont préparées que par des bénévoles
ou ouais, que
aussi
par des bénévoles. D'accord. Ouais, c'est que des bénévoles. Après il y a pas mal de menuisiers, moi j'en suis un aussi, de menuisiers, de charpentiers. Mais bon, en soi la construction de cabane, il n'y a pas besoin d'être menuisier, il y a juste besoin de se servir d'une scie et d'une visseuse quoi. Et donc le but c'est de gagner un maximum de temps dans la jungle pour faire un maximum de cabanes dans la journée. Beaucoup de migrants nous demandent de faire des cabanes pour eux parce qu'ils sont en galère. Et donc il y a une forme de liste. Et après il y a des sujets qui sont prioritaires par rapport à une femme avec des enfants ou une personne plus âgée va être prioritaire par rapport à d'autres.
Le témoignage artistique de Marion Duquesne sur la jungle de Grande-Synthe sera à voir au château d'Assas au Vigan à partir du 18 mars.
C'était un sujet de Siam Mineur et de Pierre Isnard Dupuis pour Radio Escapade. Depuis plus de 20 ans, le salon Sésame, salon du bio, du bien-être et de l'éco-habitat, s'installe pour quelques jours au centre des expositions de Nîmes. L'édition 2016 commence en ce début du mois de mars. À cette occasion, Frédéric Suot, directeur de ce salon, est venu le présenter au micro de Radio Alliance.
À l'origine, pour nous, l'objectif du salon, c'était de pouvoir partager des opinions, des idées, des tendances qui nous semblent être intéressantes à la fois pour le bien-être au quotidien, mais aussi pour l'humanité dans son ensemble, pour la planète. Et c'est tout naturellement qu'effectivement les thèmes de l'écologie, de l'environnement, de l'agriculture biologique, du développement personnel, nous en étions très sensibles à l'époque et encore aujourd'hui. Et nous avons voulu partager, essayer de promouvoir et de développer ces idées-là auprès du grand public et en tout cas du plus grand nombre.
Alors on va passer au salon Sésame Nîmes 2016 et j'aimerais que vous nous présentiez ce salon dans sa spécificité, dans ses richesses, etc.
Alors nous en sommes déjà à la 24e édition, c'est un salon qui est bien installé sur Nîmes et sa région, puisque à l'époque quand on l'a créé, il y avait très peu de salons de ce type en France, on était le troisième après Paris et Lyon. Aujourd'hui, c'est près de 200 exposants qui vont représenter des thèmes tout à fait différents les uns des autres, puisqu'on peut passer de la cosmétique biologique à l'éco-habitat, au développement personnel et à l'alimentation bio, par exemple. C'est aussi un vaste programme de conférences, alors qui est alimenté à la fois par des auteurs que nous allons rechercher, sélectionner, en fonction de l'intérêt du thème qu'ils développent et de nous, de ce que nous voulons faire passer aujourd'hui, en tout cas de ce qui nous intéresse et nous fait vibrer. Et puis une partie, ce sont des exposants qui proposent aussi des conférences plus ciblées sur leur activité, leur expérience et ce qu'ils savent faire.
Est-ce que la médecine, les médecines douces ont une place particulière dans ce salon ?
Tout à fait. Enfin, la base de notre manifestation à l'origine était plutôt axée sur les médecines naturelles ou en tout cas une alternative. L'alimentation y rentrait naturellement parce que effectivement on sait tous que c'est la base de notre santé, de notre bien-être. Quand on est bien nourri, il y a de fortes chances pour qu'on passe à travers de pas mal de maladies. La qualité de l'aliment aussi qu'on consomme, c'est pour ça que tout naturellement, dès que le label bio s'est mis en place et les agriculteurs ont commencé à prospérer, on a pu les intégrer tout naturellement dans la manifestation. Puis après, effectivement, tout ce qui peut être complément alimentaire, cosmétique, biologique, tout ça en fait partie.
Les agriculteurs viennent aussi à votre salon ?
Tout à fait. On a le salon qui est scindé en deux parties. On a un marché biologique, uniquement de producteurs, essentiellement de gens qui sont en locaux. Alors ceux-là, ils sont placés autour d'un espace restauration. On a trois restaurants biologiques, un torréfacteur bio. Et donc ceux-là sont placés type marché, c'est-à-dire on leur met pas de structure, ils ont les parasols et ça reste assez sympathique, un endroit assez convivial où on peut s'asseoir, boire un thé, déguster un gâteau biologique. Et puis après, il y a l'autre partie qui est la non alimentaire où là, on va retrouver tous les autres produits qui peuvent être proposés sur le salon.
Qu'est-ce que vous proposez pour les enfants ?
Alors pour les enfants, on a plusieurs choses. On a déjà un espace enfant et qui est animé par une association qui s'appelle Envie d'Enjeu et qui propose beaucoup de jeux de coopération, une autre démarche au niveau du jeu, mais aussi au niveau de l'éducation. quelque chose qui est plus global et en tout cas plus dans le respect de l'humain et de la planète. Et on a un espace aussi artisan qui peut proposer des petits ateliers pour les enfants aussi, de recyclage et en utilisant des produits recyclés, créer de nouvelles choses avec ça. Mais voilà, ça reste assez ciblé là-dessus.
Le salon se déroule où exactement ?
Alors nous sommes au parc des expositions de Nîmes. Hein.
Depuis le début, depuis les...
Alors non, parce qu'à l'époque, le parc expo n'existait pas. Ouais. Donc nous étions dans une salle du stade des Costières, juste ouais. à côté. Mmh. Et puis au bout de 3 ou 4 ans du salon, le parc expo a été construit. Et là, la mairie a tout naturellement déplacé toutes les manifestations qui étaient dans le stade, dans le parc. Et c'est là où l'évolution du salon a vraiment pris de l'ampleur, puisqu'on s'est retrouvé dans une salle qui était 4 fois plus grande que ce qu'on occupait à l'origine. Donc au début, on n'occupait qu'une toute petite partie du parc. Aujourd'hui, on l'exploite à 110%. Nous sommes du 4 au 7 mars. Le salon ouvre le vendredi à midi, de midi à 19h30. Et les autres jours, nous sommes ouverts de 10h30 à 19h30. On peut manger sur place. Nous avons 3 restaurants biologiques, un restaurant de cuisine indienne bio pour le côté exotique. On a un restaurant végétarien, sans gluten. Et puis un troisième restaurant qui sera plutôt en cuisine traditionnelle biologique, là aussi.
Biologique aussi, oui.
Les trois, c'est obligatoire.
Et l'entrée dans le salon ?
Alors, l'entrée est un tarif unique à 4 euros.
4 euros.
Mais on a quand même aujourd'hui la possibilité de récupérer beaucoup d'invitations gratuites, que ça soit par le biais des magasins bio qui sont partenaires avec nous, les offices de tourisme, ou même d'aller consulter notre site internet www.salon-sesame.com.
Concernant l'évolution de ce salon, est-ce que vous voyez des évolutions par rapport aux premières années ou par rapport aux dernières années qui est 2015, 2014, 2013?
Ah, on est passé par différentes phases, effectivement. Les premières années étaient balbutiantes. C'était assez compliqué de trouver des exposants. Il en manquait beaucoup. On n'avait pas d'agriculture bio, on n'avait pas tout ça. Donc, il fallait vraiment aller les chercher et les sélectionner un par un. Il n'y avait pas de magasin bio. La bio était encore assez peu connue, en tout cas très, très peu développée. Aujourd'hui, on a des magasins bio quasiment à tous les coins de rue. Une partie des produits qu'on trouve sur nos salons peuvent être aussi trouvés dans ces magasins-là. L'avantage, c'est qu'on y rencontre les producteurs, les fabricants, et ils peuvent proposer des nouveaux produits, en tout cas rencontrer leurs clients et avoir des retours sur leurs produits et en même temps expliquer leur démarche et qui ils sont réellement.
Mais écoutez, merci beaucoup de cette présentation tout à fait complète et meilleurs vœux pour ce salon là qui merci. Va commencer donc le 4 mars.
Le vendredi 4 mars.
Et qui se termine
le lundi 7 mars.
Ainsi s'achève le carnet de région animé et réalisé cette semaine par Pierre Isnard-Dupuis de Radio Escapade et Marie-Hélène Dupuis de Radio Bartas. Rendez-vous la semaine prochaine sur votre radio pour de nouvelles actualités régionales vues par les radios associatives et non commerciales de Languedoc-Roussillon.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Gard.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.